MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui encore et on va voir aujourd'hui que faire lorsqu'on traverse une crise. Une crise, ça peut impliquer beaucoup de choses. Ça peut être une très mauvaise nouvelle. Ça peut être une situation vraiment difficile à la fois financière, émotionnelle, relationnelle. Dans plusieurs situations, on peut traverser des crises. La vie, malheureusement, nous réserve quelques crises, mais on va voir comment se comporter. Et je ne suis pas seule pour aborder ce sujet. Je suis avec mon ami Frank Poulin.
Hello, Evelyn.
Et notre invité pour les trois prochaines journées, le pasteur Patrice Martorano.
Wow. Bonjour,
salut.
Bonjour Evelyn. Bonjour.
Ça va?
Bien. Heureux d'être avec vous.
Ben, ravi de te recevoir à nouveau. On est vraiment très, très heureux. Je le rappelle, tu es pasteur principal de l'église Momentum.
Oui.
Momentum Bordeaux, mais aussi à Bruxelles.
Et à Paris.
Et à Paris, donc depuis peu. Bah oui, une belle expansion de ce beau ministère que tu portes.
Merci beaucoup.
On est heureux de t'accueillir.
Merci.
Alors aujourd'hui, on aborde un sujet intéressant.
Un sujet que tu aimes beaucoup, qui te passionne.
Ah, bien sûr, les crises, ça m'a toujours passionné. Et quand elles arrivent, wouhou!
Tu sors déjà, tu es dans mon bureau et tu te dis, j'ai une nouvelle crise.
Une nouvelle crise. Non, je ne suis pas encore arrivée à ça.
Ah, non.
La Bible nous dit de nous réjouir des épreuves qu'on vit, mais bon, dans la souffrance.
C'est pas toujours facile. On arrive, mais c'est pas facile.
Non, c'est pas facile du tout. Non. Et quand on vit des crises, ben non, c'est pas facile. Et puis parfois, en fait, on se les prend un peu en pleine face, comme on dit. Et on ne sait pas comment réagir, et même parfois on peut mal réagir, mal se comporter, et fixer nos yeux au mauvais endroit, et ça devient très très difficile. Et aujourd'hui, Patrice, tu feras une rubrique famille, tu vas nous dire comment transformer la crise en miracle. Donc tout de suite, on amène l'espoir dans la crise là.
Ah, il y a toujours, avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir.
Amen.
Donc oui, on vit des crises, ça c'est sûr, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel, il y a toujours la possibilité, Dieu est avec nous, il ne nous délaisse pas. Et parfois on crie à lui d'où me viendra le secours et il me vient de l'Éternel.
Amen.
Et donc on va regarder comment transformer cette crise en miracle.
Amen. Excellent. C'est ce qu'on veut. Et peut-être que en ce moment même vous traversez une crise. Peut-être que vous venez peut-être d'apprendre juste une très très mauvaise nouvelle à l'instant, hier, peu importe. On veut que vous soyez vraiment encouragés. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous donner de l'espoir, de booster votre foi, de vous encourager. Oui, quand il y a Dieu, il y a encore de l'espoir.
C'est toi qui fais la pensée du jour,
c'est
Evelyne.
C'est ça, je suis partie. On devrait de temps en temps innover.
C'est clair, juste comme ça. Vas-y, fais-la.
Non, ça va aller.
Ah, ok.
Allez, on commence avec la pensée du jour.
Eh oui, qui a dit que la vie de foi, la vie chrétienne serait facile et que tout irait miraculeusement, surnaturellement, extraordinairement bien? Bien ça, si c'est ce que tu t'es fait dire, je suis désolé, mais c'est pas la réalité. Parce que on est encore dans ce monde, on est des êtres humains, mais la bonne nouvelle, en effet, c'est qu'il y a un Seigneur, un Jésus extraordinaire qui est avec nous et qui, dans les situations, nous voit et sait. Et même, il a traversé des situations compliquées. Il peut être compatissant avec ce que tu vis en ce moment. Et puis, ben, évidemment, il y a toutes sortes de crises. Evelyne en a parlé déjà. Il peut y avoir des attaques spirituelles qui vont venir créer une sorte de crise. Mais aussi, parfois, ça va être naturel. Je veux parler à toutes les super spirituelles qui pensent que tout est toujours spirituel. Non, parfois, on a fait des erreurs, des mauvaises décisions. On s'est mis les pieds dans les plats qui font qu'il y a une crise qui arrive. Et puis, il faut savoir naviguer dans ça. Il peut y avoir des conflits relationnels. Une des bonnes, quand même, crise ou conflit relationnel dans la parole, c'est Paul et Barnabas. Ça en est une bonne. Tu vois deux hommes de Dieu matures dans le Seigneur qui se séparent comme ça. Waouh! Ça, c'est compliqué. Ouais. Et même Paul qui parle avec Pierre. Je veux dire, Paul, il était audacieux quand même. Je sais pas, quand tu arrives devant quand même Pierre l'apôtre et que tu lui parles devant tout le monde comme ça, en tout cas, vous pouvez lire dans les actes. Ben, ça, c'est une bonne image d'une crise relationnelle qui démarre comme ça. Il peut y avoir des tentations qui vont te déstabiliser. Et qui vont t'amener à chuter, et par la suite, ben voilà, oui, ça va déclencher une crise, parce que ça a des répercussions à différents niveaux, des crises financières, des crises de toutes sortes, et les prédicateurs sont bons à lister des grandes listes de choses pour que tu puisses t'identifier à ça. Mais là, la bonne nouvelle, et qu'est-ce que je veux voir avec toi, c'est quatre petits points très, très, très rapidement dans la crise. Première des choses, et ça semble simple, Mais j'aime comment que la parole et l'évangile, elle est simple. Et quand tu regardes aux héros de la foi et ceux qui nous ont devancés, ils ont toujours fait quelque chose en particulier. La majorité d'entre eux, ils ont gardé les pieds. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle des héros de la foi qui nous ont devancés, mais très récemment, des hommes et des femmes de foi, ils ont gardé les pieds ancrés sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Tu dois pas commencer dans le moment de crise à être ballotté et soudainement ta foi et les promesses de Dieu sont remises en question. Mais qu'est-ce que c'est? Non, non, aujourd'hui, je te rappelle, garde tes pieds fixés sur la parole. Garde les yeux fixés sur Jésus. Il te comprend. Mais comment est-ce que ça paraît simple, mais dans un moment de désespoir parfois, d'éteindre les lumières. Je parle comme ça de manière naturelle. De faire taire les voix, de faire taire toutes les choses qui sont là. Et là, tu prends un temps avec lui. Parce qu'on peut tellement dans nos pensées en train de réfléchir. Mais là, prends un temps où est-ce que tu gardes les yeux fixés sur lui. Parle-lui. Va vers lui. Troisième chose, refuse de blâmer Dieu et de tomber dans le non-pardon ou l'amertume. Refuse ça parce que tellement de gens se font avoir. C'est un piège de l'ennemi qui veut te faire croire que soudainement Dieu est contre toi et que c'est de sa faute. Toutes les choses pourries qui t'arrivent, c'est à cause de Dieu. Fais attention de ne pas tomber là-dedans. Refuse ces pensées. Entoure-toi de gens de foi qui vont pouvoir te soutenir et t'élever. Ça, c'est extrêmement important. Pas des gens qui sont dans l'incrédulité, qui vont parler le doute, mais des gens de foi. Ça, c'est très, très fort. Et deux petits versets. Dépendamment de comment tu te sens aujourd'hui. Et ça, je me suis dit, Evelyne, il y a des gens qui sont dans un mode guerrier en ce moment et qui sont en mode, je vis un conflit, mais par la grâce de Dieu, le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal que tu aies avec moi. Et là, tu wow, hallelujah, je te balance ce verset qui est là. Et pour d'autres qui sont comme démolis en ce moment, je veux te dire, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Des fois, on est en mode guerrier. Parfois, c'est lourd et compliqué. Mais choisis ton verset aujourd'hui, dépendamment de comment tu te sens. Mais rappelle-toi de la parole de Dieu, ce qu'elle dit à ton égard.
Amen.
Ah, j'étais plus lent, Evelyne, là.
Ah, c'est pas grave. C'était génial. Et j'aime quand tu prends mon verset du jour à la fin de ta pensée du jour.
C'est excellent. Et je savais pas.
Mais non, parce que tu lis pas les notes.
Il y a beaucoup de versets dans la Bible, en plus. On est tombé.
Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Alors, on va le revoir ensemble parce que oui, pour de vrai, je me suis dit, je pense que Dieu veut vraiment parler à quelqu'un par rapport à ce verset. Moi, je l'ai pris dans une autre version parce que j'aime changer les versions parce que vous connaissez un peu trop les versets par cœur des fois et on se les approprie pas bien. Donc, le psaume 23 au verset 4 qui dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Si je devais traverser, parce que on n'a pas forcément envie que ça arrive, mais c'est un risque d'arriver. Si il arrive que je passe par là, de quoi est-ce que je dois me souvenir? Tu es auprès de moi, tu es avec moi. Et cette houlette, ce bâton dont on parle, c'est ce bâton de berger, en fait, qui avait pour but de protéger les brebis, de les défendre des loups si besoin, mais aussi des fois de les empêcher d'aller dans certaines directions. Et c'est ça, en fait, ce réconfort qu'on peut avoir aussi. C'est que dans les moments de crise, je peux m'appuyer sur Dieu pour qu'il m'empêche de m'enfoncer encore plus loin dans la crise. Vous savez, des fois, quand on prend des mauvaises décisions, c'est comme on accumule mauvaise décision sur mauvaise décision et on s'enfonce toujours plus loin. Le Seigneur peut parfois aussi nous arrêter avec son merveilleux bâton, sa houlette, et nous dire « Stop, repars plutôt dans cette direction, la solution est là. »
Même par frustration, des fois, il y a des gens qui vont... Parce que ça va tellement mal, et tu deviens fâché, aigri. Mais tant que ça va de mal en pire, je vais continuer dans cette direction. En fait, on prend des décisions sous la frustration, dans la colère, qui sont des décisions qu'on n'aurait jamais dû prendre.
Oui.
Et là, aujourd'hui, je prie que le Seigneur puisse parler au cœur de beaucoup d'entre vous qui subissent une crise et qui puissent te dire « pause, wow, attends un peu, stop, fais juste, regarde à moi à nouveau. Oh Seigneur, je veux prier et je veux te remercier parce que tu touches le cœur d'un grand nombre de personnes aujourd'hui. Ceux qui sont dans des moments de crise, dans des temps de difficulté, on prie ensemble tous les trois. Je pensais pas prier aujourd'hui comme ça, mais Père, je veux prier que tu puisses amener la paix dans les cœurs qui sont troublés, dans la vie de ceux qui vivent des moments très compliqués en ce moment. Des crises qui viennent de la maladie, des mauvaises nouvelles qui sont soudainement tombées. Seigneur, que la paix les envahisse. Il y en a qui sont en route vers le boulot maintenant, qui sont vers le travail. Je prie qu'ils soient inondés de ta paix. Que ceux que ça va mal dans les familles, Père, que tu poses ta main. Qu'il y ait une lueur d'espoir maintenant, qu'il y ait une remise, une, comme une perspective qui change, un shift qui puisse se passer, Seigneur, dans comment ils ont vu les choses jusqu'à aujourd'hui, mais qu'ils le voient avec tes yeux maintenant, avec ta perspective, qui est celle du miracle, qui est celle de, waouh, avec Dieu, on fera des exploits. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ta grandeur et ta grâce.
Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, cette émission commence fort, mon cher Frank. Un fardeau s'est déposé sur toi, je le ressens, sur certaines personnes. Et gloire à Dieu, parce que je crois que c'est le Seigneur qui veut venir toucher, réconforter certains d'entre vous. Et Patrice, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec notre rubrique famille. Mmh. On parle de crise. Les familles en traversent aussi par moments. Et tu as un bon passage à nous partager par rapport à ça. Donc, on enchaîne tout de suite avec la rubrique famille.
Alors j'aimerais aujourd'hui vous encourager à transformer votre crise en miracle. Plus exactement, c'est Dieu qui transforme une crise en miracle. Et effectivement, parfois dans les familles, on a prié là, et parfois on vit des crises. Une maman monoparentale, moi ma maman s'est retrouvée à nous élever, moi et mon jeune frère, et dans une cité en France monoparentale, vraiment, je me souviens de ma maman qui ne savait pas comment elle allait finir la fin du mois. Souvent j'entendais dire ça, je sais pas comment je vais finir la fin du mois. Mmh. Et des moments, c'était juste, on était le 10 quoi, il restait encore 20 jours. Oh là. Et c'était compliqué. Et on a toujours vu la main de Dieu agir, et j'aimerais, dans cette rubrique famille, il y a plein de choses qu'on peut parler sur les familles, mais parfois il y a aussi la réalité financière, la crise financière que des familles vivent, parce que peut-être tu es une maman monoparentale, peut-être que tu as un monsieur, tu viens de perdre ton travail, et tu as des enfants, et on ne sait pas comment on fait pour s'en sortir de tout ça. Et j'aimerais voir avec vous, vraiment, comment transformer cette crise en miracle. On pourrait appeler ça aussi les 10 commandements du miracle. Et c'est une histoire, une très très belle histoire, qui est, enfin, elle commence de manière tragique. Elle finit bien, mais elle commence de manière extrêmement tragique. C'est une dame qui perd son mari. Son mari est un prophète. Et elle faisait partie de l'équipe pastorale de Élisée à l'époque. Et là, elle se retrouve vraiment fracassée par la vie. Elle sait pas comment elle va faire. Ils avaient contracté un emprunt juste avant, et le décès du mari, puis là il n'y avait pas les assurances comme aujourd'hui, puis les banquiers viennent et voilà quoi. Je sais pas pourquoi ils avaient fait un prêt, une maison, alors peut-être pas une voiture il y a 3000 ans en arrière, mais vous comprenez, ils avaient fait prêt. Et là, à l'époque, l'assurance c'était les enfants. C'est-à-dire que si t'es pas capable de payer ton prêt, on va récupérer tes enfants, on en fait des esclaves, et jusqu'à ce qu'ils soient, jusqu'à ce que la dette soit payée. Et là, cette femme, elle est bouleversée. C'est pas une femme, on parlait de crise tout à l'heure, qui peuvent venir de péché, de choses parce qu'on a mal agi, mais des moments, la vie frappe.
C'est vrai.
La vie frappe, on se retrouve dans une situation où elle a rien demandé, la vie a frappé sur elle. Et là, elle va aller voir Élisée, et elle va dire à Élisée ce qu'elle est en train de subir, ce qu'elle est en train de vivre, et donc elle va le voir en disant, voilà, ton mari, le prophète, il est mort, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Et on va regarder vraiment, je vais essayer d'être assez rapide, être assez punchy sur ces 10 commandements, vraiment les passer de manière assez rapide, comme Frank tout à l'heure avec les 4 points, là j'en ai 10, mais je crois vraiment que ça peut vous bénir et vous encourager. Prenez des notes, parce que je crois vraiment que c'est vraiment 10 commandements du miracle. La première chose que j'aimerais vous dire et vous encourager, quand vous ne savez pas quoi faire, vous devez savoir vers qui vous tourner. Je crois vraiment que ton refuge détermine ton miracle. Cette femme se retrouve dans cette situation et elle est complètement catastrophée. Et je crois que vers qui on va se retourner, c'est ce qui va déterminer notre miracle. Vous savez, un peu comme lorsque il y a ce tumulte, cette tempête, et là, il y a les 12 apôtres, ils sont dans la barque, ils crient, ils ont peur. Pour eux, c'est une crise terrible, c'est une tempête. L'eau commence à rentrer dans la barque, et puis Jésus arrive, il marche sur l'eau. Et là, Pierre va faire quelque chose de fou. Il va sortir, et il va dire à Jésus, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Il va sortir, et il va aller voir Jésus. Et j'imagine les 11 qui sont restés, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Pierre?
C'est clair.
Tu vois, qu'est-ce qu'il nous fait? Parce que, en fait, on se réfugie toujours dans ce qui nous procure de la sécurité. Et là, j'arrive à comprendre, les 11, on est sur un lac, il y a une tempête, j'ai un bateau, ma sécurité, c'est le bateau. Et là, c'est là la puissance et la force de l'apôtre Pierre, c'est que pour Pierre, il valait mieux être en dehors du bateau, mais avec Jésus, que d'être dans un bateau sans Jésus. Et donc, ton refuge détermine ton miracle. Et la première chose que nous sommes appelés à faire lorsque nous passons par des temps difficiles, c'est d'aller vers Jésus. c'est d'aller vers celui qui est capable littéralement d'accomplir le miracle. C'est l'endroit où nous nous réfugions qui détermine si oui ou non nous allons recevoir le miracle. Deuxième commandement, ne cherchez pas de messie terrestre. On a souvent tendance à courir après un homme parce qu'on pense que c'est cet homme-là, ou cette femme-là, ou cette personne-là. Mais là, qu'on s'entende, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir, bref, des gens autour de nous qui vont vraiment nous aider. Mais ça ne remplacera jamais de se tourner vers le Seigneur. Et elle, cette dame, elle a été vers Élisée et elle lui a fait savoir son problème. Et regardez ce que Élisée va lui dire, c'est tellement intéressant. Il lui dit, que puis-je faire pour toi ? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi ? En d'autres termes, grosso modo, elle lui dit, j'ai un problème d'argent. Et lui, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Et je suis un prophète, je suis pas un banquier. J'ai pas dans mon bureau de pasteur, j'ai pas une planche à billets pour t'envoyer de l'argent. Tu penses que c'est moi qui vais solutionner tout ça, mais c'est pas moi. Et c'est ça, toute la sagesse d'Élisée, il va amener cette femme à se tourner vers celui qui est capable d'accomplir le miracle. Il refuse littéralement de laisser cette femme mettre sa foi en lui. Et c'est tellement tendancieux, même parfois, nous, en tant que pasteur, je pourrais avoir ça. Ah, tu vois que les gens, ils te donnent une importance, ils mettent un peu comme leur foi en toi. Non, non, non. C'est, moi, je suis là pour te montrer celui qui est le rémunérateur de la foi. Je suis là pour te montrer celui qui guérit. C'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés, que les malades sont guéris, que les pécheurs sont pardonnés. C'est pas dans le nom de Patrice Martorano ou de je ne sais qui. C'est toujours dans le nom de Jésus. La troisième chose, c'est découvre ce qu'il y a chez toi. Nous, souvent, nous pensons qu'il n'y a rien, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Parce que je crois que le miracle est dans la maison. Il y avait un livre qui avait été écrit il y a 20 ans en arrière de Tommy Barnett. Le miracle est dans la maison. Et c'est vraiment un encouragement à réaliser. C'est ce que Élisée va faire comprendre à cette femme. Ce dont tu as besoin, le début du miracle est déjà littéralement sur toi. Après avoir réorienté la foi de cette femme à regarder vers Dieu, il va maintenant lui faire prendre conscience de ce qu'est qu'est-ce que tu as ? Il va lui dire ceci. Élisée lui dit, dis-moi, qu'as-tu chez toi ? Souvent, on regarde tellement à ce qui nous manque qu'on oublie de regarder à ce que nous avons. Parce que ce que nous avons nous semble tellement ridicule que on est plus là en train de lister tout ce qui me manque. Et là, Élisée va faire l'inverse. Cette femme n'avait pas besoin, et tu n'as pas besoin, que quelqu'un te rappelle, ou que moi ce matin, je te rappelle ce que tu n'as pas. Tu as surtout besoin de quelqu'un qui te rappelle ce que tu as. Et c'est ce que Élisée a fait. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi ? Dis-moi, quelles sont tes ressources ? Et elle devait réaliser que finalement, chez elle, elle avait déjà les prémices du miracle. Oui. Et je crois toujours que, en fait, il y a toujours les prémices du miracle. Dieu part toujours de quelque chose. Et il y a chez nous des choses qui sont les prémices du miracle. Je me souviens quand j'habitais 3 années au Canada, il y a plus de 20 ans en arrière. Et quand on est arrivé pendant 2 semaines, notre appartement était vide. Et vide, on avait juste l'électroménager. Et l'appartement était vide, on n'avait pas d'argent. Zéro meuble. Et j'avais un voisin que j'ai vu il y a 2-3 jours. Et je me souviens, il a tellement, parce que ma femme, on avait un petit bébé. Et il avait pris la peine pour nous et il nous avait apporté un tabouret. Et on avait juste un tabouret pour que ma femme puisse s'asseoir dessus pour nourrir la petite. Et en fait, on a eu ce tabouret pendant je sais pas une dizaine de jours. C'était une blague avec ma femme. On s'asseyait chacun notre tour dessus. Et enfin bref, et on dormait par terre, etc. Wow. Mais on avait prié et on croyait que à partir de ce tabouret, Dieu allait nous donner tout le reste du mobilier.
Amen.
Et l'église où on était, 10 jours après, ils ont reçu d'une grosse enseigne de meubles. Enfin bref, on a eu tous les meubles. Notre appartement a été meublé. Mais Dieu est parti. Dieu est capable de multiplier les tabourets.
Ouais.
Dieu est capable de multiplier le peu que l'on a. C'est pourquoi, quatrième miracle, ne vous laissez pas aveugler par le pessimisme, mais basculez dans le positif. En temps de crise, notre première réaction, elle est négative.
Mais oui.
Elle est toujours négative.
C'est le réflexe. Hein.
C'est le réflexe. Pourquoi ? Pourquoi ça arrive à moi ? Et pourquoi ? En plus, je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, normalement, il ne devrait pas galérer, parce que c'est le témoignage, parce que, etc., etc. Et c'est toujours ça. Et moi, tout à l'heure, je le disais, j'ai grandi avec une maman. Et ma maman, quand elle disait « je n'ai rien », elle avait vraiment rien.
Oui, c'était un vrai rien.
C'était un vrai rien. Et moi, je me souviens que des moments, même aujourd'hui, des moments, je discute avec des gens et ils me disent qu'ils n'ont rien. Et quand tu grattes, bah, tu t'aperçois quand même qu'ils ont une maison, tu vois. Une maison à 300, 400 000 euros, dollars, peu importe. Ils ont quand même une voiture, ils ont quand même un travail, ils ont quand même, tu vois. Ils ont quand même un peu d'argent de côté au cas s'il faut changer le toit. Mais ils ont rien. Et en fait, on n'a pas tous la même définition du mot rien. Il y en a quand, vous savez, hein, il y en a quand vous m'écoutez parler, quand vous dites vous avez rien, c'est que vraiment vous avez rien. Ouais, même vous êtes à découvert sur votre compte. Ouais. Et il y en a quand vous dites je n'ai rien, en fait, quand on gratte, il y a quand même des choses,
hein. C'est ça.
Il y a quand même des choses. Ma mère, quand elle disait je n'ai rien, elle avait vraiment rien. Et regardez, la servante, elle va dire ceci. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Trois petits points. Finalement, elle a dû se gratter la tête. Ah oui, j'ai un vase d'huile. J'ai un vase d'huile. Au début, elle commence, elle part pessimiste. Je n'ai rien. Puis en y réfléchissant, bon, j'ai pas grand chose, mais j'ai un petit quelque chose. J'ai un vase d'huile. Et là, elle commence à passer littéralement du pessimisme au positif. Et je crois que Dieu est celui qui est capable de rendre l'impossible possible.
Amen.
Il est capable de nous faire passer du naturel au surnaturel.
Yes.
Cinquième miracle, la foi n'est pas la foi sans les actes. Il faut passer à l'action. Je crois que la foi active l'impossible. Donc ils ont établi un diagnostic. Ils ont quand même un petit vase d'huile. Voilà. Maintenant, il va falloir passer à l'action. À partir de ça, il va falloir suivre un traitement, une ordonnance. Et il va dire ceci, il va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Et là, donc, cette femme, Élisée, lui dit, mais non, tu vas aller voir tes voisins, tes voisines. Et là, j'imagine la scène. D'abord, Dieu nous demande des trucs, ça paraît fou quand même.
Oui, c'est clair. Qu'est-ce que je vais faire avec des récipients vides, quoi?
Ouais. Puis qu'est-ce que les autres vont penser? Tu vois, cette femme, quand elle a été voir ses voisins, ses voisines, tac, tac, elle a toqué. Hélène, bonjour, tu peux me passer tes récipients? Chantal, tu peux me passer tes récipients? Etc. Ils ont dû la regarder. Certainement qu'ils ont dû même la prendre pour une femme très bizarre. Ouais. Tu vois, depuis qu'elle a perdu son mari, vraiment, il y a quelque chose qui a disjoncté dans sa tête, quoi. Elle est là, elle a un tout petit appartement, elle fait rentrer des vases. Vraiment, quand Dieu nous demande de faire des choses, moi, je me souviens quand Dieu m'a demandé de venir ici, au Canada, vous, certainement, les actions que Dieu vous a demandé de faire dans votre vie, ceux qui nous écoutaient, là, des moments, Dieu nous demande de faire des trucs, ça paraît fou.
Oui, ça n'a pas l'air d'avoir de sens, en fait.
C'est clair. Ça paraît fou. Des vases, demande-en un grand nombre. Mais c'était le diagnostic. Parce que c'est à partir de là que Dieu a fait le miracle. Et j'arrive à cet autre point pour vivre l'homme miraculeux, ferme la porte au doute. Élisée lui dit, une fois rentrée, ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Et ça, c'est tellement fort. Des gens devaient parler.
Bien sûr.
Tu vois, quand vous avez fait ce que vous avez fait avec EMCI, des gens ont dû parler.
Oui.
Quand nous, on a été implanter une église Momentum Bruxelles à 1000 km de chez nous, ils disaient, mais pourquoi tu fais pas ça à côté de chez toi? C'est ça la logique et tout. Les gens parlaient, ils nous prenaient pour des fous. Et il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte au doute.
Oui, oui.
J'arrête d'écouter. Je sais ce que Dieu m'a demandé. Il m'a demandé d'aller chercher des vases. Je vais chercher des vases. Il m'a demandé d'aller implanter une église à Bruxelles. Je vais implanter une église à Bruxelles ou à Paris. Il m'a demandé de faire EMCI. Je fais EMCI. Ça paraît fou pour les gens. Et c'est là l'importance de « ferme la porte
oui. ».
Je laisse pas les autres rentrer dans l'intimité de mon cerveau et littéralement d'amener un poison et de m'amener le doute. Je reste avec cette foi. Je crois que mon Dieu est capable de multiplier ce que j'ai. C'est un Dieu multiplicateur. Les gens, et ce qui est fou, c'est que des moments, bien sûr, ça peut arriver des gens qui n'ont pas la foi. Mais bien souvent, je pense que vous êtes comme moi, bien souvent, ceux qui nous ont donné des paroles de découragement, c'est des frères et sœurs.
Ben oui.
C'est des chrétiens.
Ouais. Malheureusement.
C'est des chrétiens, t'as pas autre chose à faire.
Bah, c'est la sagesse humaine.
C'est la sagesse humaine, c'est ouais. ça.
Des conseils humains.
Et c'est ce qu'Élisée a dit, ferme la porte. Ferme la porte, ferme la porte, ne te laisse pas prendre. Juste reste-toi avec tes enfants. Vous avez prié, vous avez la foi, tu es venu chercher quelque chose, maintenant t'as ton vase d'huile, il y a tous les vases qui sont chez toi, et là ça va être l'autre miracle, verse tout ce qu'il y a, verse jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ne t'arrête pas. Bien souvent, nous, il y a cette notion de limitation. On voit, hein, et Élisée, sur pareil, il y a un roi qui vient le voir, et il jette des flèches à terre, et Élisée lui dit, mais pourquoi t'as pas été jusqu'au bout? Et des moments, on se limite, mais elle se limite pas, elle verse, on amène les vases, elle verse. Et je pense que elle a rempli tous les vases. Franchement, quand je serai au ciel, je vais voir le bonus, hein. Je vais voir le DVD, le streaming, je sais pas, mais je vais voir le truc. La tête qu'elle devait faire, quand t'as un vase comme ça,
oui, t'as
un petit récipient comme ça, et tu commences à verser, et t'as un vase, il est aussi haut que la table, et là,
ça
il
coule,
se remplit. Waouh! Vas-y, apporte-en un autre. Waouh! Et c'est un truc de fou.
Vraiment.
C'est un truc de fou, ce qu'elle a vécu. Et je pense que si elle avait eu tous les vases de la ville, ce serait rempli.
Ouais, 100%.
C'est sûr.
Le truc, c'est que là, ben, elle était limitée par son espace. Ouais. Mais tous les vases de la ville. Donc, verse jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ne te contente pas, va jusqu'au bout. La neuvième, et on arrive bientôt à la fin, c'est voir au-delà du miracle. Je crois que le miracle est juste une étape. Regardez, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, qui lui dit, donc Élisée va dire à cette veuve, va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Et souvent on est subjugué par le miracle, et bien sûr c'est magnifique, on veut vivre le miracle, moi je prie pour vivre le miracle dans ma vie et de voir des miracles, mais la réalité, le miracle n'est qu'une étape, ce n'est pas une finalité. En fait, le miracle doit avoir un sens, il a un objectif le miracle, et l'objectif c'est nos destinées. Là, le but du miracle pour cette femme, c'est que ses enfants soient libérés. C'est que ses enfants soient libres, que ses enfants ne deviennent pas des esclaves, qu'elles sortent de la pauvreté. En fait, tout est lié à sa destinée. Le miracle en lui-même n'est qu'une étape. C'est pas « Waouh, vous avez vu un peu, j'ai rempli des vases. Ça, vrai, j'espère que tu m'as filmé là. Je vais faire des réels sur Instagram. Vraiment, je vais faire des millions de vues, mon gars. » C'est pas ça le but. Le but, c'est la destinée.
Ouais.
Le but, c'est de sauver une famille. C'est ça. C'est qu'une femme sorte de la pauvreté et qu'elle puisse vivre, elle et ses enfants. Et la dernière chose, souvenez-vous qu'il en aura toujours assez. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Il dit ceci, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. C'est-à-dire que non seulement elle a pu payer sa dette, mais le miracle a fait en sorte qu'il lui en reste pour qu'elle puisse continuer de vivre. Avec Dieu, il y en a toujours assez. Voilà les étapes pour transformer une crise
en miracle. Excellent. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette histoire. Et Frank, tu le sais, on entend souvent Michael nous dire il faut qu'on présente des vases à Dieu par rapport aux finances de MCI. Quels vases on a ? Présentons plus de vases à Dieu. Et en fait, présenter des vases, là, c'était des vases concrets, réels, qu'on allait remplir d'huile. Mais en fait, dans notre vie de tous les jours, c'est quelle opportunité on donne à Dieu pour pouvoir nous bénir, en fait. Qu'est-ce qu'on met en place dans notre vie pour pouvoir nous bénir si on n'a pas de travail ? Est-ce qu'on a déposé des CV partout, en fait ? Déposer des vases, c'est ça aussi. Ça dépend des situations, en fait, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on traverse. Peut-être des fois, c'est des opportunités d'entreprise, c'est des situations particulières. Des fois, c'est faire des semences un peu folle aussi, de venir semer financièrement dans un terrain et s'attendre à ce que Dieu fasse grandir la plante. En fait, présenter des vases à Dieu, c'est donner l'opportunité à Dieu, oui, de transformer la crise en miracle, parce qu'en réalité, c'est pas elle qui l'a transformée en miracle, cette crise qu'elle traversait. Elle a simplement présenté les vases et Dieu les a remplis. Et je crois vraiment que quand on traverse des crises financières, bah oui, il faut présenter des vases à Dieu. Quelle opportunité vous avez donnée à Dieu de venir vous bénir d'une façon ou d'une autre? Vous connaissez votre situation. Et des fois, c'est faire des pas de foi, faire des choses un peu folles, comme aller chercher des vaches chez tous les voisins. Des fois, il faut faire des choses un peu folles qui ont l'air d'avoir aucun sens, mais qu'en fait, ce sera l'opportunité à Dieu de nous bénir. Merci beaucoup, Patrice.
Avec plaisir.
J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette histoire et je crois que ça a parlé à quelqu'un, seulement vous avez été encouragé, vous avez reçu la paix lorsqu'on a prié, mais aussi vous avez reçu une stratégie, une direction divine pour pouvoir transformer votre crise en miracle. Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Alléluia! On va se retrouver demain. Demain, veux-tu que la semence porte du fruit? On va voir comment les paroles qu'on peut entendre peuvent ou non porter du fruit et à quel point, en fait, on a un rôle à jouer dans ce domaine-là. Et Patrice, tu feras une rubrique conseil du coach. Petite graine, grande promesse. J'en dis pas plus, mais ça s'annonce être une très belle émission. Alors, on vous dit à demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.